RFI 20h30 à Paris et Kigali 19h30 à Kinshasa. Afrique Soir, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Paul, bonsoir à tous. C'est une nouvelle donne diplomatique qui s'est jouée il y a quelques instants à Washington. Les ministres des Affaires étrangères de RDC et du Rwanda ont signé une déclaration de principe en vue d'une trêve dans l'est du Congo, signature sous l'égide de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Le dossier d'Afrique Soir consacré à la situation humanitaire alarmante au Soudan depuis l'intensification des combats entre l'armée soudanaise et les FSR autour de la ville d'El Fasher. À suivre également la journée mondiale contre le paludisme, les sports également dans Afrique Soir, l'athlétisme, la Ligue de Diamants de retour demain en Chine et dans les starting blocks, Letsile Tebogo, le Botswanais champion olympique du 200 mètres à Paris. Enfin musique avec la chanteuse comorienne Salam, ce sera le coup de cœur de notre correspondant à Moroni, Abdallah Zembaba.
This concludes the ceremony. Thank you.
C'était il y a 20 minutes à 20h11 heure de Paris précisément, 14h11 à Washington. Au secrétaire d'État américain. Bonsoir Paul Orgery.
Bonsoir Sylvie.
Les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé une déclaration de principe en vue d'une trêve.
Oui, et l'image est assez rare pour être racontée. D'un côté, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères. De l'autre, Olivier Ndungiré, ministre rwandais des Affaires étrangères également. Et au milieu, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui évoque un accord gagnant-gagnant pour la RDC et le Rwanda. C'est par la notion d'urgence que la ministre congolaise des Affaires étrangères a introduit ses propos. Je cite « Pour nous, Congolais, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle relève de l'humain ». De son côté, Olivier Ndungiré a remercié Donald Trump pour permettre un vrai changement sur la manière de résoudre la situation dans l'est de la RDC. Je cite « Aujourd'hui, nous parlons des vrais problèmes. Les causes profondes doivent être traitées pour obtenir une paix durable dans la région. Cela inclut la sécurité et le retour des réfugiés et également nous discutons de la manière de créer les chaînes de valeur économique. Alors on sait que 4 jours plus tôt, le médiateur qatari Mohamed Al-Khulaifi rencontrait Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche. Les États-Unis, tout en soutenant le processus de Doha, déploient leur propre stratégie. Et pour Washington, l'économie fait partie de la solution. Un accord minier est en discussion avec Kinshasa, mais aussi avec d'autres pays de la région. Un moyen, selon la diplomatie américaine, d'ancrer la paix dans l'investissement et le développement.
Merci Paul Orgery. J'ajoute que le Rwanda et la RDC se donnent jusqu'au 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a publié ce vendredi les résultats définitifs de la présidentielle du 12 avril. Brice Clotaire Oligui Nguema a obtenu 94,85% des voix. 19 mois après son coup d'État qu'a déposé Ali Bongo, c'était en août 2023. Son principal rival, Alain-Claude Bilibinzé, arrivé deuxième, a recueilli 3,11% des suffrages. Et par ailleurs, Brice Clotaire Oligui Nguema se rend demain, comme une dizaine d'autres dirigeants africains, aux funérailles du pape François à Rome. Ils sont attendus notamment les présidents du Cap-Vert, de Centrafrique, d'Angola, de RDC, du Togo et de Madagascar, ou encore le roi du Lesotho. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir. On en vient à notre dossier consacré au Soudan et à la situation humanitaire qui est alarmante dans la province du Darfour nord-est. Les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des FSR ont connu une nette intensification, notamment autour de la ville d'El Fasher. Ces derniers jours, les FSR ont redoublé leur offensive pour tenter de prendre le contrôle de la ville. Et il y a 2 semaines, ils se sont emparés du vaste camp de déplacés de Zamzam, le plus grand d'Afrique, qui se trouve près d'El Fasher et qui abritait environ 1,5 million de personnes. Alexandra Bonjon.
L'attaque du camp de déplacés de Zamzam a provoqué un déplacement de population sans précédent, affirme le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Des centaines de milliers de personnes ont fui en quelques jours. Selon OCHA, plus de 330 000 déplacés ont trouvé refuge dans différentes localités de la province, principalement El Fasher et Tawila. Aujourd'hui, le camp de Zamzam a été quasiment vidé, affirme l'ONU. Des images satellites montrent qu'une grande partie a été incendiée et détruite. Et selon plusieurs sources, le camp est désormais contrôlé par des milices locales alliées aux paramilitaires qui empêchent tous ceux encore présents de partir. Le bilan humain de cette attaque sur Zamzam n'est toujours pas connu. OCHA parle de plusieurs centaines de civils tués. Un responsable du camp qui a fui lors de l'attaque estime que le nombre de victimes atteindrait les 1500, dont 12 acteurs humanitaires. Des chiffres impossibles à confirmer en raison de la présence des paramilitaires qui empêchent tout accès au camp.
Et on a entendu donc l'attaque sur le camp de Zamzam, le plus important camp de déplacés de la région, a provoqué une importante vague de déplacements de population dans la province du Darfour du Nord. Où sont partis tous ces déplacés? Dans quelles conditions vivent-ils aujourd'hui? Réponse avec Marion Rammstein, coordinatrice du projet Médecins sans frontières au Darfour. Elle répond à Alexandra Bonjon.
Suite à l'attaque, les gens ont commencé à fuir le camp. La plupart d'entre eux se sont dirigés vers Taouila, qui est située à l'ouest, 60 km plus loin. Et une grosse partie sont également réfugiés à El Fachir, qui est la capitale du Darfour, vingtaine de kilomètres au nord de Zamzam.
L'un des endroits vers lequel ces déplacés ont fui, c'est Taouila, où MSF est présent. Que vous disent-ils en arrivant ?
Les récits sont vraiment terrifiants. Ils arrivent avec rien, absolument rien, juste les quelques biens qu'ils ont réussi à prendre avec eux pendant la fuite. Mais certains se sont fait racketter, piller pendant la route, battus et violés aussi. Beaucoup de récits de viols. Et ça, c'est seulement sur le chemin. Mais avant ça, ils ont fui une attaque extrêmement meurtrière. Leurs récits sont terrifiants. Ils parlent de corps tout autour d'eux. Pendant l'attaque, les militaires qui rentraient dans chaque maison pour tuer les civils qui étaient encore là et qui ne fuyaient pas. Et un déplacement tellement massif de personnes d'un coup que ce sont des familles déchirées qui ont perdu des membres de leur famille, soit pendant la fuite dans le chaos, soit parce qu'ils ont dû les abandonner derrière eux puisqu'ils étaient trop blessés pour continuer la marche avec eux jusqu'à Taouila.
Quand vous parlez d'attaque des militaires, de qui parle-t-on exactement ?
De la junte de RSF.
Et dans quel état de santé sont-ils quand ils arrivent à Taouila ?
Donc les récits sont glaçants, mais leur état physique aussi est vraiment terrifiant. À l'hôpital, on reçoit énormément de personnes qui sont complètement déshydratées. C'est la première cause de tous les patients qu'on reçoit, les plus nombreux sont à cause de déshydratation très sévère. Il y a quelques jours, une patiente est morte à l'arrivée, donc avant même son admission à l'hôpital, à cause de déshydratation sévère. Les personnes, en arrivant, nous racontent qu'ils ont laissé des gens derrière et qu'ils sont morts de soif. Et les enfants, tous les enfants qu'on accueille à l'hôpital sont dans des états de déshydratation extrêmement sévères. C'est très très préoccupant.
Et ils continuent d'arriver encore aujourd'hui ?
Oui, ils continuent d'arriver encore aujourd'hui. Les jours de pic, juste après l'attaque, on montait à près de 10 000 personnes qui arrivaient par jour. Maintenant, le flux a un peu réduit, mais on compte encore entre 1 000 et 1 500 personnes qui arrivent quotidiennement à Taouila. Et vu les récits et les témoignages des gens qui arrivent, il y a encore beaucoup de gens qui essayent de fuir et qui sont sur les routes. Donc, on s'attend à qu'il y ait encore plus de monde. On est extrêmement inquiet du sort de El Fachir. Qu'est-ce qui va se passer si cette ville est attaquée? Et où vont aller tous ces civils? Est-ce qu'ils vont réussir à fuir? Et donc, on se prépare à accueillir encore plus de personnes à Taouila, malgré le fait que les ressources et la réponse humanitaire n'aient absolument pas l'ampleur de la crise.
Voilà donc des propos recueillis par Alexandra Branjon. C'était Marion Rammstein, coordinatrice du projet Médecins sans frontières au Darfour. Au Cameroun, le nouvel édifice de l'Assemblée nationale porte désormais le nom de Palais des Verts. Paul Biya, du nom du chef de l'État Paul Biya, âgé de 92 ans en cette année d'élection présidentielle. Le bâtiment a été inauguré en grande pompe à Yaoundé ce vendredi. Polycarpe Samba.
Plus qu'un simple baptême, c'était une cérémonie pour célébrer Paul Biya, une orientation parfaitement assumée par les organisateurs. Théodore Datuo, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale.
Et c'est à la dimension de l'homme. Voyez-vous, au Cameroun, c'est le premier édifice public qui porte le nom du président Paul Biya. Il n'y a pas un autre avant celui-ci. Et ça, s'il a accepté, ça veut dire que c'est aussi un message très fort qu'il passe au peuple camerounais.
Sur les raisons ayant conduit au choix de Paul Biya pour porter cet édifice, dans de la coopération entre le Cameroun et la Chine, Théodore Datuo évoque un choix d'évidence.
C'est un homme qui a sacrifié des décennies de sa vie à servir le Cameroun. Il a apporté à notre pays d'abord la démocratie et le développement. Du côté de la démocratie, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le respect de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif n'a jamais failli.
La cérémonie particulièrement courue malgré l'absence de Paul Biya avait toutes les allures d'un meeting politique avec un appel sibilant à Paul Biya pour suivre son œuvre.
Nous célébrons quelqu'un qui a très bien travaillé et nous pensons qu'il peut continuer encore à faire davantage. Pourquoi ne pas le dire? Quand il a bien travaillé, est-ce qu'on va lui demander de quitter? C'est à lui de décider, mais pour nous, nous lui demandons de continuer.
Si toute la classe politique a été conviée à la fête, à noter quand même les absences remarquées des plus grands opposants à Paul Biya, comme Maurice Kamto ou Cabral Libi. Polycarpe Sumba Yaoundé, RFI.
En bref, la Guinée-Bissau est connectée depuis ce vendredi au réseau électrique régional qu'elle partage avec trois voisins, le Sénégal, la Gambie et la Guinée. Cette offre supplémentaire de courant va lui permettre de couvrir entièrement les besoins de sa capitale, régulièrement confrontée à des coupures. Ce projet d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie hydroélectrique est mis en œuvre dans le cadre de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, formé par quatre pays qui ont en commun ce cours d'eau, la Gambie, qui est représentée à la cérémonie par son président Adama Barrow, le Sénégal et la Guinée par leur ministre de l'hydraulique. En bref, encore dans l'actualité africaine, le Nigeria, où un tribunal a confirmé l'amende de 220 millions de dollars au géant américain Meta. Vous le savez, Meta, c'est cette société mère de Facebook et de WhatsApp. Cette amende avait été infligée l'an dernier par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs pour violation de données personnelles de consommateurs au Nigeria. 20h41 à Paris, c'est la journée mondiale contre le paludisme ce vendredi 25 avril. Et faire que la lutte contre cette maladie infectieuse reste une priorité dans de nombreux pays africains. Voilà l'objectif de l'ONG Impact Santé Afrique. Elle est très active, surtout en Afrique francophone. Et l'une de ses grandes missions, l'un de ses grands défis, c'est de mobiliser des ressources pour financer la lutte contre le paludisme. Une mission fragilisée par le démantèlement de l'agence américaine pour l'aide au développement, une mesure imposée par l'administration Trump. Écoutez Olivia Ngou, elle est fondatrice et directrice de l'ONG Impact Santé Afrique.
USAID PMA a aidé, finançait la lutte contre le paludisme à près de 30%, entre 20 et 30% dans les pays. Et donc depuis janvier, le financement, le gap s'est malheureusement alourdi. Dans certains pays, notamment les pays du Sahel et le nord, par exemple le nord du Nigeria, nord Cameroun et toute la zone du Sahel de l'Afrique. Dans ces pays-là, pendant cette forte saison de pluie, c'est la période où on a le plus grand taux de mortalité lié au paludisme. Donc avec l'arrêt de ces financements, on va assister à un retard dans la mise en œuvre totale de ces campagnes-là. Nous, en tant que société civile, nous saluons les efforts de nos gouvernements qui sont actuellement en train de mettre en place des plans de mitigation de risques, des plans d'urgence pour au moins assurer que les tests et les médicaments soient délivrés à ces enfants pendant cette période critique. Il serait inadmissible de perdre des milliers d'enfants quand on a le médicament.
Voilà Olivia Ngou, la fondatrice et la directrice de l'ONG Impact Santé Afrique. Direction le Sénégal, ce soir et demain, c'est la deuxième édition du Festi Gounaï, un festival d'art, ça se passe à Saint-Louis. Et cette année, la marraine de la manifestation est Mambi Mawin. Elle est pionnière du théâtre clownesque et fondatrice de l'association Djarama. Et depuis plus de 20 ans, elle développe le secteur du théâtre jeune public au Sénégal, Noah Perret.
Théâtre d'ombre, cirque contemporain ou encore marionnette, c'est le programme du Festi Gounaï. Et pour ce genre d'événement au Sénégal, Mambi Mawin est au premier rang.
Donc cette année, dans le cadre du festival, je donne une formation avec mon mari, Alessandro. Donc on va fabriquer des têtes de marionnettes, des mopettes.
L'occasion pour elle et pour son association Djarama de mettre sous les projecteurs le théâtre clownesque, un art vivant peu reconnu au Sénégal.
Le secteur jeune public, le théâtre clownesque, c'est vraiment pas des médiums qui sont connus. Parce qu'il n'y a pas d'école qui forme au théâtre clownesque ou à la marionnette. À part Diarama, il n'y a pas de centre qui propose des formations sur ces médiums-là.
Alors depuis de nombreuses années, Mambi Mawin accompagne des artistes et offre aux plus jeunes un éveil à l'art vivant.
Un enfant qui est nourri d'art, développe son imaginaire, est capable de faire, de créer. Donc je pense que si on le montre à des instances qui dirigent, ils peuvent comprendre et accompagner le secteur.
Depuis plusieurs années, des comédiens et metteurs en scène populaires comme Abdelkader Diarra réclament un fonds pour le théâtre afin d'assurer la pérennité de cet art au Sénégal.
Alors si vous êtes à Saint-Louis au Sénégal, non seulement vous avez de la chance, mais surtout ne ratez pas ce soir et demain donc la deuxième édition du Festi Gounéi. Merci à vous, Noah Perret. h 45, c'est les sports. On va démarrer avec l'athlétisme, la Ligue de Diamant qui est de retour demain. Les meilleurs athlètes du monde ont rendez-vous à Xiamen, c'est en Chine. Parmi eux, Letsile Tebogo, rappelez-vous, le Botswanais champion olympique du 200 mètres à Paris l'été dernier, qui avait créé la surprise. Le sprinteur de 21 ans démarre cette saison avec un tout nouveau statut, celui de favori sur la piste, mais aussi celui de source d'inspiration pour la jeune génération, et il en est très heureux.
The gold medal has helped me in...
La médaille au JO m'a beaucoup aidé. Elle m'a ouvert des portes. Et surtout, je suis content que cela ait inspiré tout un tas d'enfants. Nous avons lancé des projets pour amener le maximum d'enfants vers le sport et leur permettre d'évoluer dans de meilleures conditions que notre génération. C'est mon objectif et c'est sur le bon chemin. J'ai envie de dire aux plus jeunes de courir, de ne pas lâcher leurs rêves. Rome ne s'est pas faite en un jour. Moi, il m'a fallu des années pour arriver où j'en suis.
Voilà, et l'autre athlète qui va lancer sa saison estivale en Chine, c'est Hugues Fabrice Zango, qui participera au concours du triple saut. Le football, à l'Arly du Caire, double vainqueur en titre de la Ligue des champions de la CAF, ne défendra pas son titre en finale cette saison. Les Égyptiens ont été sortis en demi-finale par les Mamelodi Sundowns. Le club sud-africain a réalisé l'exploit d'arracher un nul 1-1 au stade international du Caire en toute fin de match, après le nul 0-0 du match aller à Pretoria. Au jeu débute, ce qui compte double à l'extérieur en cas d'égalité, ça suffit pour valider un retour en finale de C1 des Brésiliens de l'Afrique pour la première fois depuis le succès en 2016. Et pour le club au maillot jaune et vert, la finale se disputera face à un autre club de la nation arc-en-ciel, les Orlando Pirates, ou face à un autre club, Keroth Pyramids. Et cette seconde demi-finale au retour est en cours. Le tennis, l'épopée d'Eliakim Koulibaly au Challenger d'Abidjan se poursuit. Le numéro 1 ivoirien a balayé le géorgien Bakchi en 2-7 en quart de finale. Direction les demi-finales à présent. Eliakim Koulibaly qui se sent de plus en plus à l'aise dans ce tournoi à domicile, porté par son public. Sa réaction après son match au micro de Mo Lamine Sissavani.
Je suis très content. Je suis pas très surpris parce que après le premier tournoi, je me suis entraîné, j'ai bossé. Fallait passer ce cap-là de pouvoir jouer à la maison. Et là, je suis une bonne lancée, il faut continuer comme ça.
On s'imagine bien que les Ivoiriens vont de plus en plus sortir pour venir te soutenir ici. C'est un apport supplémentaire pour toi?
Bien sûr, toujours un plaisir de jouer à la maison avec le public. On n'en a pas l'habitude tout le temps, comme je joue beaucoup à l'international. Qu'ils viennent supporter. Espérons qu'on va ramener la coupe à la maison, comme les mecs du football l'ont fait et comme les mecs du basket le font. Pourquoi pas le tennis? On œuvre pour ça, je bosse dur pour ça. Donc j'invite les gens à venir me soutenir. Et là, c'est que bonus pour moi, à moins d'en tirer le positif de ce tournoi-là.
Voilà, Eliakim Koulibaly qui affrontera demain midi le Lituanien Ricardas Berankis pour une place en finale de ce Challenger d'Abidjan. Il est 20h48 ici à Paris. Les titres de l'actualité, c'est avec vous, Paul Lancin Spinelli.
Oui, avec tout d'abord ce pas supplémentaire vers un éventuel cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Il y a environ une demi-heure, les ministres des Affaires étrangères congolais et du Rwanda, pays soutien du mouvement M23, ont signé une déclaration de principe en vue d'une trêve. Les deux pays se sont donné jusqu'au 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix, se sont engagés à respecter leur souveraineté respective. Cette démarche a été réalisée sous l'égide de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. 250 000 personnes environ se sont recueillies devant le cercueil du pape François à Rome depuis mercredi, chiffre communiqué par le Vatican ce soir. La place Saint-Pierre de Rome a été fermée au public en fin d'après-midi pour préparer les funérailles du souverain pontife décédé lundi. Funérailles qui débuteront demain matin. matin, plus de 50 chefs d'État sont attendus à cette cérémonie. La Crimée appartient à l'Ukraine, c'est ce que martèle Volodymyr Zelensky ce vendredi, le président ukrainien qui réagissait à une déclaration de Donald Trump quelques heures plus tôt dans un entretien au Time, dans lequel le dirigeant américain évoquait une Russie qui gardera, selon lui, la péninsule annexée par Moscou en 2014. L'armée israélienne poursuit son ratissage de la bande de Gaza. Elle appelle ce soir à l'évacuation de 3 nouvelles zones du nord de l'enclave en raison d'opérations antiterroristes, selon ses mots. Et puis en Syrie, 11 civils de la minorité alaouite ont été tués au cours des dernières 24 heures. Dans la ville de Homs, c'est dans le centre du pays. Cela s'est passé lors de perquisitions des forces de sécurité. Information donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui précise que 3 personnes sont mortes sous la torture après leur arrestation. À début mars, la communauté alaouite avait été la cible du massacre qui a fait plus de 1700 morts selon l'organisation. Et tout de suite, on part au Gabon avec vous, Sylvie Berruet.
Oui, on va partir visiter le parc national de l'Opéokanda, le plus ancien du pays, hein, qui est célèbre pour sa faune et pour sa flore. Mais c'est surtout son patrimoine humain qui lui a permis d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en 2007. Il abrite des preuves de vie humaine. Elles sont vieilles de plus de 400 000 ans, dans ce qui semblait être une voie de passage importante, hein, pour les Gabonais de la préhistoire. Et François Mazet a suivi leurs traces en compagnie des agents de l'Agence nationale des parcs naturels.
Nous sommes sur le site de l'OP2, qui est daté de 9000 à 3000 ans avant Jésus.
Entre savane et forêt, Prosper Prost Tutumba est comme chez lui sur le plateau qu'il nous fait visiter. Au pied du conservateur adjoint en charge du patrimoine et du tourisme, de multiples pierres dont certaines ont des formes caractéristiques.
Il s'agit d'un atelier de taille. C'était une usine préhistorique pour fabriquer des outils en pierre. Donc nous supposons que dans le bosquet derrière nous, qui est là-bas, que ça aurait dû être là, le village. Il n'habite pas là, mais il s'installe là juste pour fabriquer ses outils et les ramener au village. Et parfois, on peut trouver des préformes, des nucléus qu'il a commencé à tailler. Et voyez un peu comment, en regardant au sol, par hasard, nous avons pris un pic. Cet enlèvement, comme ça, pointu, eh bien, ça sert à la chasse. C'est surtout pour désarticuler les animaux qui ont été pris en chasse. Il garde ce bout pointu et il va viser les parties des articulations qui sont fragiles pour séparer les membres.
L'étude en cours d'une fosse dépotoir récemment découverte sur le site permettra de mieux comprendre le régime alimentaire et les méthodes de cuisine de ces chasseurs-cueilleurs. Plus loin, surplombant l'Ogoué, le superbe site de Kongo Mbumba 7, sur les roches, des cercles frappés au burin comme une carte datée de l'âge du fer il y a 2000 ans.
De ces cercles, c'est des taches des chaînes. Tout ce côté gauche semble être antérieur et le côté droit a été ajouté par d'autres populations qui sont arrivées beaucoup plus tard. Les métallurgistes fabriquaient leur matériel, transformaient le minerai ici sur place. Alors ce trajet migratoire semble montrer un chemin. Un chemin où le premier groupe arrive, il laisse un signe pour dire « nous sommes passés par là, voici nous avons occupé ». Peut-être que le nombre de cercles va donner la taille de la population qui a été là, ou alors ce sont des étapes franchies. Mais en considérant ici comme une étape majeure.
Ces gravures rupestres n'ont pas livré tous leurs secrets, mais sont menacées par l'érosion et l'activité humaine. Le parc national compte au moins 150 sites d'intérêt archéologique.
C'est pour ça qu'on dit l'OP, c'est un musée à ciel ouvert. Parce que partout, on trouve des pierres taillées, on trouve des restes de poterie. Les gens ont habité partout ici.
Un potentiel qu'aimeraient explorer les équipes de conservation du parc, avec davantage de moyens humains et techniques pour approfondir les connaissances sur le Gabon préhistorique. François Mazet, de retour du parc national de l'Opéokanda, RFI.
Vous êtes nombreux, hein, comme nous, à attendre ce moment musical dans Afrique Soir. On va partir à la découverte de la chanteuse comorienne Salam, qui a remporté haut la main la 3e édition du concours de chant Niora. Elle s'était faite discrète après, avant de revenir en avril dernier avec son premier titre. Nivier, qui veut dire « Réponds-moi », c'est en Shikomori. Une balade intime, on va l'entendre, née d'un drame personnel et portée par une voix douce et une parole juste. Amoroni Abdallah Zembaba est tombé sous le charme.
Nivié, c'est la chanson du moment. Elle signe le retour d'une jeune artiste singulière et sûre de ses forces. Son interprétation, sa sensibilité, avait conquis le public lors de son passage au concours Niora, un terme à double sens qui désigne à la fois une étoile et la soif. Étoile par l'éclat de sa voix, soif par ce besoin profond d'expression, de réparation. Nivié incarne cette tension entre lumière et manque, entre présence et absence. Salam d'y avoir voulu rendre hommage aux absents tout en livrant une part d'elle-même. Entourée de l'équipe de Watonia Productions, elle a pris le temps, celui d'un projet qui lui ressemble, avec le soutien du rappeur Check MC, elle met des mots sur l'absence. Pas de fanfare, pas d'effet, une pudeur rare et cette force fragile que seuls les artistes sincères savent offrir. Nivié est un titre sobre, porté par un piano et une voix nue, rien de plus, mais une émotion honnête et sincère, car Nivié raconte l'histoire d'un deuil, celui de sa mère, morte en 2009 lors du crash de l'avion yéménien au large des Comores, un drame national devenu silence intime. Nivié, c'est moins une chanson qu'une confidence. Au vu des commentaires sur YouTube, le public est particulièrement réceptif aux morceaux de Salam. Sur TikTok, les reprises de sa chanson se multiplient. Pourtant, Salam ne cherche pas à plaire, elle cherche à dire. Ce premier morceau annonce un album à venir et trace une ligne claire, celle d'une musique habitée et humaine. Dans le ciel musical comorien, une étoile est née, elle s'appelle Salam. Abdallah Mzembaba Moroni.
Izindusui maradhi zitouni chililia mima amasazi duyani jalilia sunotwabi umjwazi nuhani nongonia kainuha muya ho akili kitu ziloni famwili nitawa chudilaka sironi Ntujihisi sawa tunu mwali mumuni Libau libenua ukainuha muya ho Nguni subi urukuni kutulawa Nudhukuru urukuni kawidua Luwa didu dalau sawa sawa Amina muya ho Nirunguzo shishioni Amangawe karibu Sendure kamihononi Chati hundru uhibu Kamuho no matoni Nirungu wa kutujibu Sizidia muya ho Languda holichaya Chati nawe hurabu Ili dakika heni saya Gamlido anjabu Suala lito uduhaya Nulituna jawabu Kamina muya Nguni subi urukuni kutulawa Nuthuku
La chanteuse comorienne Salam sur RFI dans l'Afrique Soir. Merci à Abdallah Mzembaba de Moroni pour cette belle découverte. Je sens que ça vous a plu, hein, Paul-Lancin Spinelli. Vous êtes sous le charme.
Je suis complètement sous le charme. C'est mélodieux, c'est chantant. C'est génial.
Et on salue les Comores qui nous
Exactement.
Écoutent.
Nivié, Nivié, Chawabu, Tobias and Moobishes Alamo, Chawabu.
RFI. Et au programme de votre soirée sur Radio France Internationale, à 21h10, heure de Paris, ça sera Ici l'Europe, présenté par Caroline de Camaret. Son invité ce soir, Benjamin Haddad, ministre français délégué à l'Europe, pour évoquer notamment la guerre en Ukraine, la défense européenne face à la menace russe justement, ou encore la guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump. À 21h40, pourquoi RFI dit ça ? Amélie Boucou reviendra notamment sur le traitement du décès du pape François sur notre antenne avec Jacques Alix de la rédaction en chef et sur les raisons qui ont aussi poussé RFI à traiter les violences conjugales dont a été victime la chanteuse guinéenne Djelika Ba Bintoum. Et puis Couleur tropicale à partir de 22h10, heure de Paris, au micro de Claude Issiard et de son équipe ce soir, le reggae-man ivoirien Kajim. Mais dans une petite minute, ce sera le journal avec Alban Le Prince.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, il est encore temps d'envoyer vos textes avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Arnaud Contreras a participé à un voyage de presse en Ukraine organisé par le Lviv Media Forum pour des journalistes français. L'occasion de réfléchir à cette pratique des voyages de presse, qui plus est en zone de guerre, 3 ans après le début de l'invasion à grande échelle du territoire ukrainien par l'armée russe. Je vous donne rendez-vous dimanche à 11h10 TU sur RFI pour l'atelier des médias.